outre que les femmes sont par définition la moitié de l'humanité, elles sont majoritaires dans la vie quotidienne de l'Église, elles sont aussi des premières évangélisatrices du cœur humain, je pense surtout aux mères de famille. Mais alors qualitativement aussi, elles ont un apport tout à fait spécifique, une tonalité. Je pense que c'est en raison d'une affinité profonde entre la femme et le mystère de l'Église. Le Nouveau Testament parle de l'Église au féminin. On ne dit jamais notre Père, la Sainte Église, mais notre Mère. Elle est présentée comme l'épouse du Christ. Et donc il y a entre la grâce d'être femme et l'appartenance à l'Église une affinité, une connivence. Et c'est pas que je suis d'autant plus peiné quand je vois que des femmes ont le sentiment dans l'Église de ne pas être aimées, de ne pas être appréciées, de ne pas être considérées. Et ça tient évidemment au fait que l'Église catholique, comme l'Église orthodoxe, n'ordonne pas de femmes prêtres. Ça suscite ce genre de réaction.
C'est une question qui fait débat.
C'est une question qui fait débat, et on le comprend. Et je trouve qu'on emploie rarement des arguments pertinents pour expliquer cela. Ou bien on emploie l'argument d'autorité, qui vaut ce qu'il vaut, généralement pas grand-chose dans un débat. Ou bien on avance l'argument œcuménique, qui est sérieux. Si nous mettions dans l'Église catholique à ordonner des femmes, ça creuserait un fossé de plus et important avec l'Église orthodoxe. Mais je pense que surtout, c'est la raison positive qui est importante et qui est très, très belle, à savoir qu'un prêtre n'est pas seulement un fonctionnaire du sacré ou même un ministre du culte, mais il représente le Christ époux. Une femme peut difficilement se tenir symboliquement dans ce rôle-là, tandis que la femme se tient tout à fait symboliquement dans le rôle de l'Église dans son ensemble.
Alors très concrètement, aujourd'hui, comment l'Église peut-elle mettre en avant ce rôle des femmes ?
Donc, avant de penser au rôle et aux missions, je crois qu'il faut d'abord respecter l'être de la femme. Benoît XVI a dit cela un jour très très bien, que s'il n'y a pas les femmes très présentes dans l'Église, l'Église masculine va mettre très fort l'accent sur le faire. La grâce de la femme est de rappeler l'importance de l'être, de ce qui est le plus profond dans la personne humaine. Mais je pense aussi qu'à de multiples niveaux, dans les conseils épiscopaux, dans les conseils paroissiaux, dans les conseils diocésains, dans la curie romaine, on devrait donner à beaucoup plus de femmes des responsabilités importantes et des responsabilités également décisionnelles, pas seulement de consultation. Mais c'est certainement un des gestes qui devrait être fait et qui se fait déjà, mais je pense insuffisamment.
Votre position est loin d'être partagée par l'ensemble des hommes qui composent l'Église. Vous êtes le seul, lors de cette assemblée, à avoir évoqué ce rôle des femmes.
Oui, encore que pas mal d'évêques m'ont dit après « merci d'avoir dit cela ». Je crois que beaucoup pensent cela, mais ne pensent peut-être pas à le dire.
La femme, avenir de l'homme, est-ce que l'on peut aller jusqu'à dire la femme, avenir de l'Église ?
Tout à fait. C'est une formule que j'emploie très souvent. Le sacerdoce masculin, et je comprends pourquoi il est masculin, mais la féminité de l'Église aura le dernier mot. Quand Jean voit dans l'Apocalypse descendre du ciel l'éternelle demeure de Dieu avec les hommes, il voit une femme. Et quand le Seigneur veut réveiller un peu son Église sur la terre, qui envoie-t-il à Fatima, à Lourdes, à Porin, à Banneux ? Il envoie une femme, il n'envoie jamais l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, malgré leur mérite, mais c'est toujours une femme qui est envoyée comme le miroir de la vocation ultime de tout homme et de toute l'humanité.